On va commencer Bezrat Hashem, notre premier cours, sur le chapitre 8 de Igaret Hatshuva. Dans le chapitre précédent, chapitre 7, on a expliqué Derech Ha'emet Vehayasha, un chemin qui est vrai, authentique et droit, pour faire Teshuva. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, il y avait un cours qui était quand même plutôt poignant, dans lequel, entre temps il s'est passé beaucoup de choses peut-être, mais en tout cas c'est un cours qui était poignant, dans lequel l'Admour Hazaken a expliqué que quand on veut faire Teshuvah, il faut se rappeler de deux choses. Première chose, il faut demander la miséricorde à Hachem, il faut demander de l'aide à Hachem. Si on n'a pas l'aide d'Hachem, on ne peut pas réussir. L'aide d'Hachem pour faire Teshuvah, pour revenir vers lui. Et deuxièmement, il faut réaliser la gravité de nos fautes. Que chaque fois que je fais une faute, même si la faute m'a l'air petite, en vérité, cette faute, elle s'accumule avec encore une autre, encore une autre, et ça devient comme un nuage. C'est l'exemple qu'on avait terminé la semaine dernière. Vous savez, tu vois un nuage, le nuage il a l'air petit, il a l'air léger. Mais quand tu prends un nuage, tu le superposes à un autre, et à un autre, et à un autre, et à un autre, à la fin il fait noir. Alors, c'est la même façon. Des fois, une personne a fait une faute. Il dit, bon, ça va, j'ai une petite faute. Petite bêtise par-ci par-là. Bon, c'est une petite faute. C'est vrai que la faute en soi, elle n'est pas très grave. Mais quand tu superposes les fautes, et l'une, et l'une, et l'une sur l'autre, et l'une sur l'autre, et l'une sur l'autre, tu te retrouves avec l'obscurité. Et ça, il faut réaliser. Il faut réaliser que les fautes nous mettent dans l'obscurité. Vous allez me dire, ça change quoi? On va déprimer? Non. Il y a un principe qui dit, j'ai toujours pas trouvé en français quel est le principe. D'accord? Mais il y a un principe qui dit, que yedi'at amachala, Khatsi, refoua, d'accord? Que connaître la maladie, bonsoir, est déjà la moitié de la guérison. Ça veut dire que si déjà tu comprends qu'il y a un problème, alors déjà, grâce à ça, tu auras plus de facilité à faire tes chouvas et à revenir vers un cadeau de l'ombre. Très bien. Maintenant, t'es avec moi? Ok.
Votre corps orange,
tu prends une boîte, toi. Ok. C'est dans les boîtes de nuit, ça.
C'est Benita, vous êtes enregistré.
Oui. Non, mais tu connais les boîtes de nuit. À l'époque, oui, bon.
Vous savez, il y a des gens qui... Bon, de toute façon, ils écouteront, mais... Il y a des gens qui écoutent le cours de Tania après sur le, parce que c'est enregistré. Oui. Il y en a qui écoutent le cours de Tania, qui disent, mais on entend beaucoup une certaine voix. Alors, il faut écouter la voix. C'est la voix de qui d'après vous?
Je sais pas, vous allez me dire.
Non, je leur dis non, c'est en fait, il est à côté du micro, c'est pour ça. Ok. Veine, allez, on y va, Rabotam, on s'installe. Une fois que la personne va s'approfondir, va approfondir son esprit sur tout ce qui a été dit, là il pourra demander à Kadosh Baruch Hu, comme ce qui est écrit dans l'option 51, dans ton abondante compassion, efface mes fautes. De quel chutzpa, quel toupet tu as pour venir devant un Kadosh Baruch Hu et lui dire pardonne-moi. Il n'y a rien de plus grave, vous savez, qu'une personne qui vous a blessé, qui vient vous voir, et qui vous demande pardon avec un grand sourire, et que dans son regard, vous voyez qu'il n'a rien compris de la bêtise qu'il a fait.
Non, ou alors il vous nargue, là.
Quand, exactement, c'est qu'il te nargue, tu comprends? C'est-à-dire que non seulement tu m'as embêté, au moins fais-toi petit, tu m'as fait une crasse, tu m'as embêté, au moins fais-toi petit. Tu viens devant moi, avec un grand sourire comme ça, tu dis, mais écoute, excuse-moi si je t'ai fait ça. Qu'est-ce que t'as envie de lui dire? T'as envie de lui dire, mais il sort d'ici, laisse-moi tranquille, t'as pas honte de me faire ça? Comment ils disent en hébreu? Aratsarta gam yarashta. Tu veux tuer et hériter. C'est quoi tuer et hériter? C'est quoi tuer et hériter? C'est une image très forte, ça, qui est écrite dans la Bible. C'est que t'as une personne qui prend une personne, il marche dans la rue, il voit quelqu'un qui l'embête, il le tue. Maintenant, ce monsieur, il a pas d'héritier. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit, le meurtrier? Il dit, bah, puisqu'il n'a pas d'héritier, c'est moi l'héritier. Alors on lui dit, tu veux tuer et hériter en même temps?
Ah, ouais, c'est ça.
Ça veut dire, c'est une folie. C'est pas possible. Il y a des limites.
Comment
hein? C'est pire.
C'est pire. C'est ce qu'ils font avec les billagers, en général.
Bah oui. Non, mais ça, tu veux... Qu'est-ce que tu veux? Tu veux tuer. D'accord.
Non, mais... Non, moi, il y a beaucoup d'histoires. Ils prennent les billagers et ils s'arrangent.
Il y a un film là-dessus, le métier en
dernier. Alors, tu veux tuer et hériter, c'est la même chose. C'est-à-dire de quel droit? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu as fait le malin? Tu as fait le malin. Tu fais n'importe quoi. Tu n'écoutes pas. Après, tu viens devant un Kadosh Baruch Hu, tu demandes pardon. Si tu n'as pas aratsarta gamerashta, si tu ne réalises pas la faute que tu as fait, tu viens demander pardon à Kadosh Baruch Hu comme une fleur, tu te moques d'Hachem quand tu fais ça. C'est ça la réalité en vérité. C'est que demander pardon à Hachem sans réaliser, c'est quelque part se moquer d'Hachem. Alors Hachem, il est gentil, il dit bon, il demande pardon parce qu'il a l'habitude de demander pardon. Mais c'est ce qu'il dit à Morazaken. Il te dit, il faut approfondir ton esprit dans tout ce qu'on t'a dit. Et comprends que tout se passe dans ta tête. C'est pas parce que tu vas lire 400 pages que tu vas faire tchouva. Il y a des gens qui arrivent à Kippour, par exemple, ou à Kippour, Hachem, quand vous voulez. Ils disent, ah, on a un gros livre qui nous attend. On va lire 300 pages. Et en plus, Serge va nous donner la page. On va lire 300 pages, on va lire un pavé, d'accord? C'est énorme ce qu'on va lire. J'ai envie de lui dire, hein. Bonsoir. Mais qu'est-ce que ça change que tu vas lire ce que tu vas pas lire? C'est important, il y a un texte pour le lire, pas de problème. Mais la question n'est pas ce que tu vas lire, ce que tu vas pas lire. La question est toi où tu es dans tout ça. Tu as lu un grand texte, mais toi où tu es dans tout ça. Et ça, c'est une vraie question. Je vous promets que c'est une remise en question que je me fais chaque année à Kippour. Et c'est très difficile à répondre à cette question. Tu peux avoir un Kippour qui est passé, toi t'étais pas dedans. Alors j'ai pas envie de parler de Kippour maintenant, parce que maintenant on s'approche de Pourim, quoique... Vous savez que le jour de Kippour, on dit que Kippour, c'est Kippourim. Yom à Kippourim. Ça veut dire que Kippour, aussi grand qu'il est, on dit que c'est comme Pourim. Comme Pourim. Il n'est que comme Pourim.
Ça veut dire Pourim, c'est plus grand que Kippour.
C'est-à-dire Pourim, c'est encore plus grand que Kippour. Bien sûr. Donc je reviens à notre histoire. Il dit, comment tu peux venir demander à Kadosh Baruch Hu, demander à la miséricorde? C'est une fois que tu as réalisé la gravité de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui va changer? Alors il va nous donner les techniques. Alors, on va tourner la page, page 245. Au basé, y aurait rachamim à alionim, y gimel midot rachamim. Vous savez, il y a un dicton que le roi Salomon, il dit, Shlomo HaMelech, il dit, kemaim hapanim lapanim, kenlev haadam laadam. Que de la même façon que lorsque tu vas devant un cours d'eau, le cours d'eau te reflète le visage que tu lui montres. De la même façon, lorsque tu es devant une personne et que tu dégages un sentiment, la personne te renvoie ce sentiment. Et on le voit clairement. Par exemple, quand tu es en compagnie de quelqu'un qui est joyeux, tu as envie de sourire, c'est communicatif. Et quand tu es en compagnie de quelqu'un qui est angoissé, la Rama, tu sens une angoisse comme ça. Tu sais, il y a des gens comme ça qui vous dégagent une énergie négative. Et c'est très angoissant parce que tu ne sais pas quoi faire avec ça. Maintenant, tu ne peux pas pointer le doigt, tu ne peux pas dire il a fait ci ou elle, hein, comme ça, voilà, comme ça, pas de problème. Hein. Tu ne peux pas dire il a dit ci, il a fait ça. Il n'a rien dit, il n'a rien fait. Mais des fois, c'est communicatif, c'est-à-dire que quand tu envoies un sentiment, tu récupères le sentiment. Et c'est pour ça que des fois, quand on se plaint, les gens ils vont se plaindre et vont dire mais pourquoi ma femme m'a fait ça? Pourquoi ma femme elle est comme ça? Pourquoi mon fils il est comme ça? Très souvent, ils ne sont que le reflet de nous-mêmes. Bah, Shem Tov, il disait la chose suivante, il dit, il faut se rappeler que celui qui est en face d'eux, c'est comme ton miroir. Il y a des exceptions, évidemment, mais c'est comme un miroir. Vous savez, devant un miroir, on fait comme les enfants. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui découvre un miroir?
Non.
Vous avez déjà vu ça, Jackie? Un enfant qui découvre un miroir. Vous avez déjà vu ou pas? Hein? Alors, regardez, je vais pas mimer, mais. Il est devant le miroir, tu vois. Maintenant, il chope qu'il y a un truc, tu vois, il y a quelque chose. Donc, il est là, il essaie de faire une petite. Il bouge un peu la tête, tu vois, pour voir que ça va bouger. Il voit que ça bouge. Vous avez jamais vu un enfant qui découvre un miroir, c'est impressionnant. Après, tu vois l'enfant, il ah, bah, tu verras.
Passé sur Internet, il y a récemment le gosse, il passe derrière la
Ah non, mais véridique. Non, mais derrière, si tu veux, toi, Robin, là, il faut attendre les petits-enfants.
C'est un pas en avant de découvrir son image.
Mais tu découvres. Et ça veut dire quoi?
Son image.
Donc tu découvres, mais après, l'enfant, il comprend. Il comprend que qui c'est qui est dans le miroir?
C'est lui.
C'est lui. Vous savez, les chevaux. Lorsqu'ils vont dans le cours d'eau, est-ce que vous avez remarqué que le cheval, lorsqu'il va dans le cours d'eau, il est tout en train de taper? Il tape du pied, il tape du pied. Pourquoi il tape du pied? Parce que quand il voit dans l'eau, il a l'impression qu'il y a un autre cheval qui va lui prendre l'eau.
C'est comme ça.
Bien sûr, c'est pour ça. C'est ce qui est dans les livres.
Quand il lui donne à boire, c'est comme ça.
Quand le cheval, il voit, comme il voit dans l'eau, il se voit. Donc il croit qu'il y a un autre cheval qui est en train de prendre de l'eau. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais qui tu es? Donc il donne des coups pour dire, laisse-le tranquille. Mais il n'a pas compris que c'est un khmar. Bon, c'est pas un âne, c'est un cheval, mais...
Mais c'est propre au cheval seulement, parce que les autres animaux, ils n'ont pas cette...
Parce que les autres animaux, ils ne sont même pas posé la question. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu envoies un sentiment, tu récupères le sentiment. C'est comme ça que ça se passe. C'est la même chose pour un Kadosh Baruch Hu. Tu es fâché avec lui, il est fâché avec toi. Maintenant, si tu réalises que tu fais pitié, tu réalises que je demande à Hachem d'avoir pitié sur moi, automatiquement, tu éveilles chez Akadosh Baruch Hu un niveau qui s'appelle Rachamim. Rachamim, la miséricorde. Et j'expliquais ce que ça veut dire. C'est-à-dire que des fois, tu vas dire, mais finalement, avec la vera que j'ai fait, pourquoi Hachem me pardonnerait-il? Quelle raison il me pardonne? Il me doit rien. Donc pourquoi il me pardonnerait? Tu sais pourquoi il va te pardonner? Parce que toi, tu as dégagé un sentiment de rachamim, tu as dégagé un sentiment de miséricorde. Comme tu as dégagé un sentiment de miséricorde, Akadosh Baruch Hu, automatiquement, il te renvoie à l'ascenseur. C'est exactement comme dans le miroir. Tu montes de la rachamim, tu montes de la miséricorde, on te renvoie à la miséricorde. Tu montes de l'angoisse, on te renvoie à une angoisse. Vous savez, c'est comme, je donnais cet exemple il y a deux semaines. Par exemple, imaginez par exemple que votre enfant vous a blessé. Il vous a blessé, il a dit quelque chose, il a fait quelque chose, il a dit quelque chose, il vous a blessé très très fortement. D'accord? Bon, alors t'as l'enfant qui est là, qui revient comme si de rien n'était, avec un grand sourire. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. On peut pas faire ça. Tu faut t'excuser. Bon. Alors, il va s'excuser. Maintenant, comment il va s'excuser? Tu veux qu'il comprenne qu'il a fait une bêtise. Donc, il va venir, il va s'excuser. Maintenant, il y a deux types d'excuses. T'as une excuse d'un adulte, t'as une excuse d'un enfant. L'excuse d'un adulte, c'est qu'il va venir, il va dire, bon, c'est vrai que j'ai fait ça, mais tu comprends, je pensais ci, je pensais ça, etc. Bon. C'est une excuse rationnelle. Ça veut dire que je discute avec toi. Je t'explique ce que j'ai fait et pourquoi je voulais faire ça et pourquoi c'est sorti comme ça, etc. Je suis sûr que tout le monde a déjà vécu ça. Des excuses comme ça, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'une excuse rationnelle, on l'accepte pas tout le temps. T'as une excuse qui est beaucoup plus forte, c'est quoi? C'est Rachamim, la miséricorde. Imaginez maintenant dans votre esprit, l'enfant qui arrive honteux. Comme ça. Il arrive honteux. Il baisse le regard et il dit, bon, écoute, papa, je me suis pas comporté comme il faut. Il va pas t'expliquer, je pensais que... Ta, 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 ta.
Lui, il exprime le rachamim.
Il exprime le rachamim, voilà. Il exprime le fait que j'ai honte de ce que j'ai fait. Je fais pitié.
Je reconnais.
Et donc, comme tu dégages un sentiment que tu fais pitié, alors automatiquement, le père, il dit, j'ai pitié de toi. Tu as pitié de quelqu'un qui fait pitié. Maintenant, en français, on n'aime pas ce mot faire pitié. Donc, tu fais pitié, ça veut dire t'es un perdant, t'es un loser, t'es un perdant. Mais en vérité, faire pitié, ça a du sens spirituellement. Faire pitié, ça veut dire réaliser que je suis dans une situation que rationnellement, il n'y a pas de logique à ce que j'ai fait. Donc je fais pitié. Et quand tu dégages ce sentiment vers un Kadosh Baruch Hu, donc un Kadosh Baruch Hu dit, ah bon, tu fais pitié, alors je vais avoir pitié de toi. Maintenant, quand tu as pitié de quelqu'un, hein, c'est pas rationnel. Tu comprends, quand tu sors dans la rue, tu vois un clochard qui est par terre. Tu fais pitié. Tu ne te poses pas la question pourquoi je vais l'aider. Ça se fait de la peine. Il est là, il fait froid dehors, etc. Il est là, il fait pitié. Donc tu lui donnes une pièce. Maintenant, tu réfléchis pas pourquoi tu lui donnes la pièce. Tu dis pas, ah, il veut une pièce, mais pourquoi il va pas travailler, et pourquoi il a pas une maison, et pourquoi il a pas écouté les pompiers qui sont venus à 10 minutes pour venir le sauver, pourquoi il est venu l'aider. Est-ce que tu te poses des questions? Non. Parce que quand quelqu'un fait pitié, ça touche une fibre en toi qui s'appelle le rachamim, qui est au-delà de tout calcul. Et quand on arrive à toucher cette fibre, tu oublies tous les calculs. C'est rachamim, la miséricorde. C'est plus que chesed, parce que même le chesed, même la bonté, c'est calculé. Chesed, c'est la bonté. Mais la bonté, c'est calculé, c'est-à-dire qu'il y a une limite à tout. Et dès que tu touches la fibre de rachamim, la fibre de la miséricorde, c'est fini. Tu peux faire ce que tu veux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'âme Israël, nous avons cette fibre. On dit que, vous savez, que c'est quoi un des signes du peuple juif? C'est que nous sommes rachmanim, vene rachmanim. Nous sommes miséricordieux, fils de miséricordieux. À tel point que le Shulchan Aruch nous dit que s'il y a une famille sur laquelle on a des doutes, on sait pas sûr d'où, on sait pas trop d'où ils viennent, il y a pas de ketouba, il y a pas de signe. Et qu'en plus de ça, c'est une famille qui sont égoïstes, qui sont radins, enfin radins, c'est un grand mot. En tout cas, qui n'ont pas cette midat rachamim, il faut se poser les questions s'ils sont juifs ou pas. C'est très sérieux ce que je vous dis. On se pose pas ce genre de questions pour le monter au Sefer Torah, mais quand on arrive au mariage, j'ai fait la formation là pour le mariage, c'est compliqué, ne croyez pas que c'est compliqué. Quelqu'un qui arrive, s'il a des papiers, il a des papiers, mais des fois il a pas de papiers. Vos parents, bah tu comprends, ils sont sans papiers. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec lui?
On leur vend la frontière.
Mais voilà. Mais qu'est-ce que tu fais?
Une enquête.
Tu fais une enquête. Quelle enquête?
Quelle enquête? Je sais pas d'où ils viennent.
Il dit, j'ai pas de mère, j'ai pas de grand-mère, j'ai rien du tout. Il y a rien du tout. Ils sont tous chez HM. Qu'est-ce que tu fais? C'est compliqué. Faire une enquête. Mais tu enquêtes sur quoi? Pas de
mais là, dans la communauté qu'il fréquente.
Il est que fréquente pas la communauté.
Alors, quand même, il fréquente la communauté. Excellent. Le fait qu'il veut déjà, déjà venir faire un mariage.
Et il y a des surprises. Fréquenter une communauté. Est-ce que c'est une preuve parce que je fréquente la communauté? Est-ce que moi je peux valider que chaque personne qui fréquente la communauté ici est juive?
Non.
J'en sais rien.
Une preuve.
J'en sais rien. Il est venu ici, il se comporte comme un juif, pourquoi pas, certainement que c'est un juif, il a une présomption. Pour ça, je le fais monter à Sefer Torah, mais dès qu'on parle de mariage, c'est autre chose. Vous savez, du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il te dit, tant qu'on parle de monter à Sefer Torah, compter pour le Minyan, il y a une présomption.
Il y a une présomption.
C'est-à-dire, tant que t'as pas de signe bizarre, d'accord? Comme l'autre, il est venu, là. Il y a une fois, il y en a un qui est venu, quelques semaines, là. Ouais. Non, pas l'autre, il y a un autre encore. Il est venu, on lui a dit, pourquoi, un gars, clair. Alors, on lui a dit, pourquoi t'es venu? Il a dit, parce que, qu'est-ce qu'il a vu comme film?
La vérité, si
il a dit, j'ai vu la vérité si je mens.
Et je me sens juif.
Et j'ai envie de devenir juif.
Ah bon,
hein. Ah, mais on a des numéros qui arrivent. D'accord, des numéros. Il y en a qu'un.
Avec la barbe et les cheveux longs.
Il y en a une fois, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que vous êtes juif? Il me dit, moi, je suis juif. Alors je dis, mais est-ce que votre mère est juive? Il dit, non, ma mère, elle n'est pas juive, mais je me sens juive. En fait, ma mère, elle s'appelle Ève, et je remonte en vérité depuis la source d'Adam Arishon. Comme ça, Adam Arishon, comme ça. Avec un grand sourire. Un sourire de gagnant, tu vois. Bon.
Enfin, c'est difficile quand même de rejeter ces gens.
Mais rejette pas.
Enfin, ou de les
ignorer. Bon,
ou de les ignorer.
Asseyez-vous, ne faites pas de bruit.
Quoi?
Ou de les ignorer, ou de ne pas.
Asseyez-vous, ne faites pas de bruit. C'est bon, le
pas. Fermez le chinbet.
Que parfois, hein, faire pitié à Akadosh Baruch Hu, c'est pas si négatif que ça. T'as pas besoin de faire tu fais pas le fier devant Hachem. Si tu fais le fier, alors tu payes. Tu comprends? Celui qui vient, il veut faire le fier, il veut garder sa fierté. Eh ben, il paye. Mais quand tu veux te faire pardonner de quelqu'un, tu fais pas le fier. Tu fais pitié. Tu dégages un sentiment que, bon, j'ai mal agi. C'est comme ça qu'on se comporte avec quelqu'un de joie en gros. Faut réaliser qu'il y a un problème. Si t'arrives, tu fais le beau, tu dis non, mais y a pas de problème, tout va bien. Alors, la chaîne dit, prends Dieu, je te pardonne. T'as pas réalisé le problème que t'as fait. Ok, viens, on va discuter. On va payer les dégâts. Tu vas payer les dégâts. Viens, on paye. Alors, quand tu dis, tu fais pitié, là, c'est autre chose. Là, j'ai pitié de toi. C'est ce qu'il dit ici. Ou basé avec cela, il y a horaire en haut de la page 246. Ou basé avec cela, il y a horaire rachamim alionim yudgim l'état rachamim. Par cela, on éveillera la miséricorde suprême des 13 attributs de la miséricorde. C'est ça les 13 attributs de la miséricorde. Vous savez, la fameuse phrase qu'on répète tout le temps, Kippour. Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanou, Nerech, Hapa, et Vera, Presse. Combien de fois on la répète cette phrase? Minimum 13 fois. On la répète tout le temps.
26 fois.
Hein? Il y en a qui la répètent 26 fois.
26 fois. Ah, vous, très
bien. Pourquoi tu la répètes tellement? Pourquoi tu la répètes autant? Parce qu'en vérité, dans cette phrase, qui a pris cette phrase? Qui a donné le secret à cette phrase? C'est Akadosh Baruch Hu.
Quand il est passé devant?
Oui. C'est Akadosh Baruch Hu. Lorsque les Bnei Israël ont fait la faute du Vaudor, c'est une paracha qui était il n'y a pas longtemps.
Oui.
La faute était tellement grave que Moshe Rabbeinu, il ne savait même pas par quel angle demander à Akadosh Baruch Hu. Ouais. Alors, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, il a dit, donne-moi une piste. Il a dit, je touche les détruire, laisse-moi, etc. D'accord? Alors, Moshe Rabbeinu, ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu, il a dit. Enfin, Hachem a dit. Moshe Rabbeinu, il a dit, non, pas du tout. Bon, ben, après, il a dit, ar enet kevodecha. Moshe, il dit, à cada jour, il dit, montre-moi quelque chose. Ça veut dire que même pour Moshe, il sentait que c'était indéfendable. Il peut pas défendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment tu peux défendre une faute tellement grave, la faute du Vaudor? Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vais te donner un secret. Et chaque fois que les Bnei Israël utiliseront ce secret, ils seront pardonnés. C'est quoi? Hachem, Kerachum Bechanoun et Rechapaim. C'est dans la paracha qui dit ça, juste après le Vaudan. C'est Hachem lui-même qui a dit à Moshe Rabbeinu le secret. Et après, Moshe Rabbeinu, il a dit cette formule magique. Pourquoi on a été pardonné? Va Yomer Hachem, c'est l'article qui paraît. Hachem l'a dit, j'ai pardonné. Hein? C'est-à-dire qu'Hachem, il a envie de pardonner. Seulement, voilà la nuance que rajoute l'Admor HaZaken. Les gens, ils pensent quand ils lisent cette phrase que c'est une phrase magique. Tu fautes, tu fais le malin, tu fais le beau, après tu viens, tu lis un texte, t'es pardonné. C'est pas chez nous, ça.
Non.
D'accord? Ce qu'Hachem veut te dire, c'est que pourquoi on les appelle les 13 attributs de la miséricorde? Pour te montrer que tout passe par la miséricorde. Que Hachem dit, si tu réalises que tu fais pitié, là j'aurai pitié de toi. Si tu réalises que tu fais pitié. Tant que t'as pas réalisé, je peux rien faire pour toi. Je peux pas t'aider si tu veux pas te faire aider. C'est ce qu'il dit ici. Comment tu éveilles la miséricorde divine? C'est lorsque toi aussi, tu vas de ton côté, tu vas éveiller la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez, ça fait quelques cours, on avait expliqué que dans le nom de Dieu, le tétragramme, il y a 4 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke. Et que chaque lettre correspond à la descente, ça veut dire, on appelle ça la descente, donc de l'énergie d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à nous. Et tout démarre depuis le Yud. C'est quoi le Yud? Le Yud, c'est la Chorma, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est le projet divin. Maintenant, si vous avez remarqué dans Sefer Torah, au-dessus du Yud, il y a une petite petite pointe. Mm-hmm. Yud, c'est, vous pourrez remarquer la prochaine fois que vous montez Sefer Torah, au-dessus du Yud, non, c'est plus que, c'est pas un tag, c'est plus que ça. Il y a une pointe comme ça. C'est-à-dire, c'est un
Vers
Yud.
Oui.
C'est,
hein,
dans tous les Yud.
Dans tous les Yud, bien sûr, dans tous les Yud. Ah. D'accord.
Alors, c'est pas vrai.
Voilà, bah je vais le faire ici. Où je vais le faire? Voilà.
Avec une patte.
Voilà. Déjà, je suis pas sauf faire. Hein. Voilà. Vous voyez? Vous voyez la pointe, là?
Ouais.
Oui. Là, il y a une pointe. Après, à part ça, il y en a qui rajoutent le tag. Le tag, c'est ça.
Couronne.
La petite couronne. Mm. Mais c'est pas, je parle pas de la couronne, moi, je parle de ça. La pointe qui est là. Oh, ouais. Là, la pointe qui est là. Cette pointe, c'est quoi cette pointe? Qu'est-ce qu'elle représente cette pointe spirituellement? Ben, il t'explique. Cette pointe, c'est ce qui est au-dessus de la Chorma. C'est quoi la Chorma? La Chorma, hein, c'est le projet d'Akadosh Baruch Hu. Et Gemara raconte comme ça. On est venu poser la question à la Torah. À la Chorma, on a dit, quelle est la capara d'une personne qui a fauté? Alors, il y a une personne qui a fauté, il faut qu'il répare. Et qu'est-ce qu'on fait si ce qu'il a cassé est irréparable? Comment il va faire? Donc là, tu dois aller chercher quelque chose qui est au-delà du projet. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, je vais donner un exemple concret. Prenons par exemple quelqu'un, un enfant, tout à l'heure je parlais d'un enfant, un enfant qui t'a très fortement déplu. Pourquoi? Parce que par exemple, tu lui as payé des hautes études, d'accord? Tu as payé très cher l'entrée dans une école, enfin je prends les exemples, voilà, d'accord? Tu l'as payé très très cher l'entrée à l'école, tu t'es vraiment privé de beaucoup de choses pour ça. Et l'enfant, il est là, tu découvres à la fin de l'année qu'en fait, il a glandé toute l'année, il n'a pas travaillé. T'es fâché avec lui. Pourquoi t'es fâché? Parce qu'il t'a déçu. Ok? Il t'a déçu. Maintenant, comment tu réponds à ça? Comment l'enfant il va répondre à ça? Est-ce qu'il a une réponse rationnelle à donner à ça?
Non.
Non. Il a aucune réponse rationnelle. S'il avait une réponse rationnelle en disant, par exemple, écoute papa, tu comprends, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché, j'ai eu des difficultés, j'étais malade, j'étais ci, j'étais ça. C'est une réponse rationnelle.
Ça c'est bien là.
Ça c'est bien. Ça c'est une réponse yud. C'est-à-dire, c'est une réponse yud, c'est la chorma. C'est une réponse yud, ça veut dire bon. Tu m'attaques avec une question intellectuelle, je te réponds avec une réponse intellectuelle. Je dis pourquoi t'as pas bossé? Je lui dis parce que je pouvais pas, j'ai pas réussi. T'as pas réussi, t'as pas réussi. Mais là on parle pas de ça, on parle d'un glandeur. Il était là, il a pas travaillé. Il a pas travaillé là, mais qu'est-ce que tu réponds à ça? Le Yud, la Chorma n'a pas de réponse à ça. L'intelligence n'a pas de réponse à ça. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Donc il faut chercher quelque chose qui est au-delà. Au-delà de l'attachement. C'est quoi ce qui est au-delà de l'attachement? Ben,
la réponse, elle est dans le père qui a continué à financer quelqu'un qui glandait.
Donc, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est qu'en vérité, l'attachement qu'il y a entre le père et le fils est au-delà de la logique. Au-delà de toute logique. L'attachement qu'il y a entre le père et le fils touche à un niveau qui s'appelle Rachamim, la miséricorde, dans lequel il n'y a pas besoin d'avoir de raison. Et c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. Velachen, c'est pour cela. Je suis au milieu de la page 246. Velachen, c'est pour cela. Ayud gimel midot arachamim menakim kol abgamim. C'est la raison pour laquelle les 13 attributs de la miséricorde corrigent tous les défauts. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils corrigent dans le sens que c'est une correction rationnelle. C'est qu'on arrive à aller à un niveau qui est au-delà de tout ça. Il y a des choses dans la vie, et malheureusement, c'est des événements négatifs en général, qui nous obligent à aller au-delà de quelque chose. Prenez par exemple l'exemple d'un mari et d'une femme qui sont gravement accrochés, très gravement accrochés. Peut-être même qu'ils sont divorcés. D'accord ? Et Dieu préserve, on vient leur annoncer qu'ils ont perdu un fils, leur fils commun. C'est... Dieu préserve. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ?
Ça va les unir.
Ça va les unir tout de suite. Non, je dis à Hachem, je parle parce que c'est grave, parce que finalement ce qui les a unis, c'est quoi ? C'est une cause négative.
C'est la douleur.
Ça peut être aussi une cause positive, mais c'est moins flagrant. Ça peut être un mariage, ça peut être etc. Ça peut être une bar mitzvah, une brit mila. Bon, c'est possible. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, hein, c'est qu'il y a des choses dans la vie qui nous obligent à aller au-delà de la logique. Il y a une logique qui est carrée, dans laquelle je dis, ça c'est moi, ça c'est pas moi, et c'est tout. Et ça s'arrête là. Il y a des choses dans la vie qui t'obligent à aller au-delà de la logique, dépasser la logique. Parmi ces choses-là, on a Rachamim, on a la miséricorde. Et puisqu'on est le mois de Hadar, je voudrais rajouter aussi une parenthèse, qu'un des autres éléments aussi qui nous aide à nous dépasser, à faire des choses qui ne sont pas de notre rang, à faire des choses qui nous dépassent, c'est la simcha, la joie. C'est expliqué dans la Chassidout qu'une personne qui est joyeuse, elle peut se retrouver à faire des choses qui ne sont pas de son rang. On a vu par exemple des fois des gens qui sont en général posés, etc., que jamais ils s'imaginent en train de danser, en train de faire le mariole, etc. Et tout d'un coup, tu vas voir pour rire, on va dire un peu les chaïms, ou même pas sentir les chaïms, ils sont très contents parce qu'il y a une bonne nouvelle, ils se mettent à danser. Qu'est-ce que tu fais à danser? Qu'est-ce que tu fais le mariole? C'est pas ton style. C'est pas toi. Qu'est-ce que tu fais le mariole? Parce que la simcha, elle t'aide à aller au-delà des problèmes. à dépasser le problème. Il y a beaucoup d'exemples qui sont ramenés sur ça. Par exemple, dans la Gemara, on nous parle de ça aussi, une personne comme ça qui marie son fils ou qui marie sa fille, et qu'au mariage, il voit quelqu'un débarquer avec lequel il est fâché. Il est fâché avec lui. Mais il le voit débarquer au mariage, parce qu'il est invité par l'autre, parce que bon, peu importe, en tout cas, il est là. La simcha, alors ça dépend, la haine aussi peut être très forte. Hein? Des fois, la haine est tellement forte que le gars, il est prêt à tout faire sauter, à faire péter les plombs pour ne pas que l'autre reste là. C'est la haine, ça. La haine, elle peut dépasser la logique. Mais d'un autre côté, la simcha peut aussi dépasser la logique. La simcha peut te pousser à faire des choses que toi-même tu comprends pas. Et ça, on le voit. On le voit clairement. Que les gens, lorsqu'ils sont contents, lorsqu'ils sont heureux, ils font des choses extraordinaires. De la même façon, rachamim, la miséricorde. Lorsque tu éveilles la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu fait des choses pour toi qui sont irrationnelles, qui sont pas logiques. Donc, notamment, l'akapara, notamment, le pardon, comme on explique ici. Donc, c'est la raison pour laquelle les 13 attributs de la miséricorde corrigent tous les défauts. Du coup, Moshe Katouf, comme il est écrit, Nose Avon va Fesha Venake. Que Dieu supporte l'iniquité et la transgression et il nettoie. C'est quand même bizarre, ça. Ça, tu comprends. C'est moi qui faute, c'est lui qui supporte et il nettoie. C'est quoi ce délire? Normalement, quand il y a un principe, non? Celui qui a sali, celui qui a déféqué, c'est lui qui a nettoyé, non? Là, on dit non. Qu'est-ce qu'on a dans les 13 tribus? On dit Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui supporte l'iniquité, la transgression, etc. Et c'est lui qui nettoie. Pourquoi il nettoie? Parce que dès lors que tu as réussi à toucher la fibre de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, c'est fini. On passe à autre chose. Le problème est réglé, c'est fini, on est passé à une autre dimension, on est passé à une dimension dans laquelle ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait ne compte plus. De toutes les façons, maintenant, tu as réussi à évoquer la miséricorde à Kadosh Baruch
Hu. Donc on est tout le temps dans le Hanun Verahum.
Hein? On est tout le temps dans le
Hanun Verahum.
Bien sûr. Ils aiment bien cette phrase des Marocains.
C'est vrai, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure.
Je vais raconter une histoire pour illustrer ça. Que des fois, la seule solution qu'on a, c'est d'implorer la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu et de faire pitié. Une fois, il y a un chassid qui est venu voir le Rabbi Rachab. C'est une histoire qui est difficile, attends, je préfère vous prévenir. Il est venu voir le Rabbi Rachab. Bon, ce chassid, il était vraiment au ras des pâquerettes, catastrophe. Il avait des enfants à marier, d'accord. Vous savez à l'époque comment ça marchait, à l'époque quand tu voulais marier une fille, il fallait payer la dot. La dot c'est quoi? D'abord il fallait payer tout le mariage, et il fallait payer aussi 3, 4, 5 ans que le khatan il va étudier tout le temps. Donc c'était une folie, l'appartement, etc. Enfin tout, la totale.
C'est pas la joie quand t'avais une fille qui naissait.
Ah oui, à l'époque.
Oh, ouais. C'était la joie. Ouais. Fallait préparer le...
Ouais, fallait commencer à économiser.
À la naissance.
À la naissance, il fallait commencer.
C'était comme c'est les conventions à l'époque, partout, hein, chez Sepharad, Ashkenaz, partout. La dot, tout le monde parle de la dot. La dot, c'est connu, la dot, c'est comme
oui,
ça.
Oui, ça existait.
Les chameaux.
Hein? Alors, bien sûr, ça existait partout. Alors, ce chassid-là, il était au ras des pâquerettes. Il avait des enfants qui étaient en âge de se marier. Il n'avait pas de quoi. En plus de ça, il a perdu son travail. En plus de ça, il a un enfant qui est malade. En plus de ça, d'accord, sa femme est déprimée. Enfin, la totale, quoi. D'accord.
Il vient de se marier, il a déjà un enfant.
Non, pas du tout. Ça fait longtemps qu'il est marié, justement.
Ah bon.
Et donc, il est très embêté. Alors, sa femme lui dit, écoute, va voir le rabbi. Donc, il va chez le rabbi Rachab. Rabbi Rachab, c'est l'avant-dernier rabbi de Lubavitch. Il va chez le rabbi Rachab. Rabbi Rachab, il écoute d'une oreille...
Distraite,
d'accord. Et il écoute, il laisse parler, il laisse, bon, l'autre il parle, il pleure, etc. Après, le rabbi Rachab lui dit, désolé, je peux rien faire pour toi. Ouais. Et l'autre, il est là, commence à pleurer, etc. Désolé, je peux rien faire pour toi. Une réplique qui est anormale, qui est inhabituelle. Donc lui, il comprend que, alors il essaie de continuer à parler, mais le rabbi Rachab, il est devant Céline.
Ah ouais. Ouais. Parce qu'il n'est pas venu avec la conviction.
Attendez, donc il lui fait comprendre que, bon, attends. Tu peux rester, ouais, c'est pas un problème, mais moi j'ai terminé. Wow. D'accord? Très dur, très très dur. Alors, il est là, il sort du bureau du rabbi, il va au Beit HaMidrash qui est juste à côté, et il s'effondre, il se met à pleurer, parce que finalement, le seul rempart qui lui restait, le seul espoir qui lui restait, c'était la bracha du rabbi. Et là, il voit que même ça, il l'a pas, il sait, je suis mort, que je rentre chez moi, que je veux faire ça, c'est fini. Il se met à pleurer, il prend les teilim, il pleure, etc. Qui c'est qui passe? Le frère du rabbi, Rav Zalman Aaron. Tu vois un juif qui pleure, tu t'arrêtes. Il va au Beit HaMidrash, tu vois un juif qui pleure comme... Il s'assoit à côté de lui, il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Et il dit, écoutez, je vous reconnais, vous êtes le frère du rabbi, etc. Il dit, écoutez, voilà ce qui m'arrive, et je suis venu voir votre frère, le rabbi, je m'attendais, je sais pas, qu'il me donne une bracha, quelque chose, ouais, mais je peux en faire pour vous, et je suis reparti comme ça, je suis reparti vredouille, je sais pas quoi faire. Il dit, ah bon, vous avez dit ça, vous êtes sûr, vraiment? C'est bizarre, c'est pas normal. Alors, Rav Zalman Aharon, il va voir son frère. Il lui dit, dis-moi,
c'est quoi la suite ?
En plus, c'était le grand frère. Mais il avait donné la place à son frère. D'accord ? Il a dit, dis-moi, un juif, il vient te voir, il te demande une bracha. Même si tu peux pas l'aider, imaginons que dans le ciel, tu trouves pas de port pour lui. Dis-lui un mot d'encouragement. Dis-lui, baisera ta chèvre, Hachem va t'aider, donne-lui une bracha, Mishibera, justement, fais-lui un sourire, donne-lui un mot d'encouragement. Tu lui dis, comme ça, je peux rien faire pour toi, qu'est-ce que tu fais ? Alors, le Rabbi Rachab, il dit, je vais t'expliquer le problème. Quand il est venu, il était sûr de lui. C'est-à-dire, dans sa tête, le problème n'a jamais pris de place. Il est dans sa tête. Dès qu'il a un problème, il dit, c'est pas grave, j'irai voir le Rabbi. Il est venu me voir, il était tellement sûr de lui, je peux rien faire pour lui parce qu'il n'y a pas de rachamim, il n'y a pas de miséricorde. Donc, je peux pas l'ouvrir la porte. La seule façon pour moi de l'ouvrir la porte, c'est quoi? C'est qu'il comprenne de lui-même qu'il est vraiment dans une situation catastrophique. Et qu'il implore la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui s'est passé. Il lui dit, maintenant tu peux le rappeler parce que j'ai senti qu'il a pleuré. Et c'est là qu'on a ouvert les portes du ciel. Il est venu, il a béni et toutes les portes sont ouvertes. Alors c'est une histoire très difficile. C'est la vérité, c'est une histoire qui fait beaucoup réfléchir parce que je connais pas les autres milieux, mais en tout cas chez Chabad, on fait très très rarement usage de ce genre de méthode. Parce que c'est une méthode dure, ça. De dire à la personne, il faut que tu réalises. Tac, faut le brusquer. Ouais. C'est une méthode très difficile. C'est très dangereux de faire ça. Tu sais, c'est comme, il y a des profs qui jouent à ça des fois, et c'est très dangereux. Par exemple, il y a des profs, quand ils voient qu'un enfant, il est pas motivé, il déchire. Il dit, t'es un bon à rien, tu finiras un voyou, etc. Alors, maintenant, peut-être qu'ils ont une bonne intention, c'est possible. Peut-être qu'ils ont une bonne intention, mais c'est très très dangereux de faire ça.
Il peut y avoir rupture.
D'accord, parce qu'il va y avoir une rupture. Alors, peut-être qu'il y a une bonne intention, c'est que, et on a vu des cas comme ça, où t'as l'enfant qui reprend et dit, je vais lui montrer au prof, je vais lui prouver!
Un cas sur mille.
Peut-être plus, mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. D'accord, c'est très dangereux de faire ça. Ça veut dire qu'il faut être rabbi, il faut être sûr de ton coup.
Il
faut être sûr de ton coup que t'as du répondant en face de toi, t'as une personne qui...
Surtout, il faut connaître le sujet qu'on a en face.
Parce que ce chassid, il aurait pu réagir en sombrant dans la déprime.
Ah oui.
Hein, ou chercher une corde, ou je sais pas moi. Je vous préserve.
Oui,
hein? Bah oui. Et là, mais là, le chassid, il s'est repris en vérité.
Oui.
Il s'est repris, il a fait les teilim, il a ouvert. Pourquoi? Parce que le rabbi, il sentait que ce chassid, on pouvait un peu le titiller. On pouvait un peu le... Ça, c'est le rôle d'un rabbi.
De
brusque. Il y a une fois, chez notre rabbi, c'était très très rare ce genre de comportement, mais ça arrivait. Par exemple, une fois, je sais pas si vous avez vu une vidéo une fois de quelqu'un qui vient voir le rabbi. Un juif qui se dit missionnaire. Et qui a fait des livres, tu vois. Maintenant lui, il vient, hein, je peux pas dire par, parce que c'est un juif, il a fait de chou en plus. Alors, il vient avec le livre, et il vient donner un livre au rabbi, tu vois. C'est-à-dire, bizarrement, il veut... il veut influencer. Alors, tu vois, dans la vidéo, le rabbi prend son livre
et jette par derrière.
Il met derrière, d'accord?
C'est pas devant lui, hein.
Devant lui, il fait.
Non.
Bien sûr, faisons-le, j'ai la vidéo. T'as pas eu le bon langue. Non, il fait devant lui. Il lui dit, vous avez pris mon livre. Il lui dit, comme ça, vous aurez un livre de moi à distribuer.
Ah oui.
Alors, attends, deux secondes. C'est une réplique. T'as pas l'habitude de voir le rabbi parler comme ça. Après, il dit au rabbi, mais vous comprenez. Enfin, il commence par le rabbi. Et le rabbi lui dit, monsieur, vous êtes malade, faut vous soigner. Vous êtes malade. Il en regarde comme ça. Et l'autre, il comprend pas. Il s'attendait à avoir une réplique, bon enfant, tu vois. Et l'autre, il dit, monsieur, vous êtes malade. Vous êtes juif. Vous êtes malade. Il faut vous soigner. Vous devez revenir à la Torah, vous devez revenir au mitzvot. Et l'autre, tu vois, dans sa gestuelle, tu vois, il est choqué. Et ce juif-là, alors tu vois, il essaie de garder le sourire pour dire, d'accord. Il a fini par faire tchouva. On m'a envoyé une vidéo. 20 ans plus tard, au Beit Chabad à Lausanne, il met une filine. Il a tourné dans le monde pendant 20 ans. Après, il a fait tchouva. Alors, voilà. C'est-à-dire, moi, jamais j'aurais parlé comme ça à quelqu'un. Jamais tu parles comme ça à quelqu'un. Tu lui dis, tu t'es un bon à rien, t'es malade, reviens. Tu fais pas ça. Fais pas des choses comme ça. Mais quand c'est un rabbi qui connaît, là, il le fait. Par contre, et là, je reviens à notre sujet. La personne avec laquelle je peux faire ça, c'est avec moi. Je fais pitié. Faire ça à quelqu'un d'autre, lui dire, tu fais pitié, t'es un bon à rien. Ça, non, tu fais pas. Mais quand tu parles de toi, quand tu as un problème et que tu dis, écoute, la vérité, je fais pitié. Là, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que BMF, tu fais pitié. Et quand tu réalises que tu fais pitié, tu touches une fibre chez Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Rachamim, qui s'appelle Miséricorde. Et tout, le mois d'Eloul, Rosh Hashanah, Kippour, toute la Teshuvah. Pourquoi je parle de Rosh Hashanah, Bichlal, maintenant? Chaque matin, ce matin, on a fait les Tachanunim. De quoi on a parlé dans les Tachanunim? De ça, on a parlé.
Oui, c'est ça.
Rachamim, Miséricorde. Hachem, Hachem, Karachum, Bechanun. Rachum, Bechanun. Vous avez dit, non, Chanun, Bechanun. Rachum, Bechanun. Tout le temps. Famincha, on a parlé de ça. Chanun Zerachum, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que tu invoques la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu et que tu fais pitié, et ben automatiquement, tu peux ouvrir toutes les portes. Alors, il dit, ou basé, tachouv, hey, tata, alimko. Je passe à la page suivante, la page 247. Ou basé, tachouv, hey, tata, alimko, bel, itiachad, beyud, heva, vedaï, le mivin. Bon, je saute la parenthèse. Vechen, le matin, mach, benefesh, le kitch, bad. C'est-à-dire qu'en vérité, la teshuva a un pouvoir extraordinaire. Extraordinaire. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Chaque avéra que je fais est comme un nuage. Donc si je cumule et je superpose plusieurs nuages, ça me fait un cumulus, d'accord ? Une tempête, hein ? Bah oui, ça me fait un cumulus, comme ça on appelle, hein ?
Oui.
Ok. Donc ça me fait un gros nuage.
Que quand il rencontre le nimbus, alors là, la pluie elle descend.
Alors justement, maintenant, comment tu fais quand t'as un gros nuage ? Le gros nuage cache la lumière du soleil. Donc mes avérotes cachent la lumière du soleil, cachent la lumière des Kadosh Baruch Hu. Comment je fais pour faire sauter ? Il me faut quelque chose qui fait tout sauter. Comment tu fais tout sauter? Alors, en météorologie, je connais pas, je sais pas comment ça fonctionne. Hein? Vous savez que il paraît que le vent, il y a beaucoup de vent à Paris, vous avez remarqué. Hein,
oui.
Hein, il paraît que le vent qui est ici, il vient de Sibérie.
Oui, il est trop froid, oui.
Hein? Non, c'est un vent froid qui a été, parce qu'en général, le temps qui vient de Sibérie, il se dissipe. Mais là, apparemment, il y a des phénomènes avec les nuages. Le nuage bloque le vent, des fois, il concentre le vent, donc il conserve son énergie. Et en fait, il y a un principe aussi dans la nature qui dit que quand tu bloques quelque chose, il prend encore plus d'énergie. C'est comme un barrage. C'est comme un barrage. Tu mets l'énergie, tu bloques, et au moment où ça bouge, il repart. Et c'est ce qui se passe. C'est de là que vient le vent. Bon, après, il y a des vents qui viennent de partout. Mais ça veut dire que, et cette notion, que des fois on se pose la question, on se dit, mais j'ai un tel barrage devant un cadeau de jour, comment il va sauter ce barrage? Elle te répond. Dis-lui, tu as raison. Tu poses une question rationnelle, il n'y a aucune possibilité. T'as mis tellement de nuages, qu'est fini, il fait noir maintenant. C'est black, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Donc il nous faut une arme atomique, une arme qui est plus forte que tout, une arme qui fait tout sauter. C'est quoi cette arme? C'est Rachamim la miséricorde. Rachamim la miséricorde. Et ça en vérité c'est la prise de conscience, prise de conscience. Je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais à la yeshiva, je crois que j'avais 15-16 ans, je me rappelle, j'avais une fois étudié un mamar du Rabbi Yosef Yitzhak, qui m'avait beaucoup marqué, dans lequel le Rabbi Yosef Yitzhak il dit, la clé, la solution de la réussite dans la vie, spirituellement et matériellement, c'est quoi? Simaklev. Comment on traduit Simaklev, monsieur Yézi? Hein?
Comment on dit?
L'attention. Pas faire attention, l'attention. L'attention que tu portes à la chose.
Être attentionné.
Attentionné à ce qui se passe, attentionné à ce que tu dis, attentionné à ce que tu fais, attentionné aux conséquences, attentionné. Quelqu'un qui est attentionné, c'est la base de toute la Russie. C'est exactement ce qu'on dit ici. C'est-à-dire celui qui fait des avérotes mais qui n'a pas l'attention, qui ne réalise pas l'ampleur de ce qu'il fait, il peut pas faire, tu vois. D'un autre côté, on te propose une mitzvah mais tu ne prêtes pas attention. Tu feras pas la mitzvah. Il faut prêter attention. La sim lève. OK? Voilà. Alors, maintenant,
faut pas avoir de mauvaises intentions.
Si tu prêtes une attention qui n'est pas la sienne, tu te plantes.
Il faut demander la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Alors, vous savez, Dilad Morazaken, je continue dans les mots, c'est des mots très durs ce qu'il dit ici. Au Kumoche Katouv, comme il est écrit, je suis au milieu de la page 247. D'accord? Kumoche Katouv, comme il est écrit. Venake ou la Shavim, que Akadosh Baruch Hu nettoie ceux qui reviennent à lui. Les chot ou les nakot nafsham, en lavant et nettoyant leur âme, milvushim atsoim, des vêtements souillés, emachitsunim vasitrahara, qui sont les forces extérieures, kemo shekatu begmara, comme c'est écrit dans la Gemara, melafe fato. Alors ça, je vous expliquer. Vous savez ce que c'est dire melafe fato? La faute t'enveloppe. Très fort, ça. Quand tu fais une avera, c'est comme un vêtement. En français, on dit ça te colle à la peau. Hein, vous savez, ça veut dire quoi quelque chose qui te colle à la peau? C'est quoi, Jackie, qui nous colle à la peau?
Oui,
quelque chose que tu peux jamais t'en défaire.
Il est fait pour toi.
Ben, la Gemara, elle dit normalement, quand tu fais une avéra, ça te colle à la peau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent, c'est pas un problème. Je fais une avéra, je mets un vêtement sale. Je fais une mitzvah, je mets le vêtement sale, je mets le vêtement propre. Et le vêtement sale, je le mets dans le placard. Et quand je veux, je le ressors, je le remets. T'es la camarade, non.
C'est imprégné.
Ça marche pas comme ça. Mais elle a fait fato. Elle t'enveloppe, la faute. Elle t'enveloppe, elle t'accompagne, elle te colle à la peau. Elle t'accompagne jusqu'en haut. Et quand t'arrives en haut, tu peux pas dire à Hachem, j'ai rien fait. Parce que la faute, elle est sur toi. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu fais teshuva?
Tu sens le tabac.
Eh ben, la puissance de la teshuva. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu fais teshuva?
C'est pas mal comme exemple. Cette faute qui colle à la peau, elle est annulée par
eh
la
ben mitzvah. Voilà. Non.
Non,
pas du tout.
Alors, quoi, il sort la mitzvah?
Monsieur Benita, j'ai une question à vous poser. Imaginez quelqu'un, d'accord, qui est parti aux toilettes et qui s'est pas essuyé, mais qui a mis du déodorant. Vous pensez quoi de ce mélange?
Ben c'est le déodorant.
Excuse, je suis cru.
Le déodorant qui va l'emporter. on sentira plus non. Le déodorant. Hein?
Alors on sentira pas le.
Hein? Voilà, mais on sentira.
Mais le déodorant. Il est sale. Il y a rien à faire. Il est sale. Vous comprenez? Et le gars, il veut pas se nettoyer, mais il a mis du déodorant.
Oui, mais alors finalement, on me dit que la Avera, elle me colle à la peau.
Ah non, voilà, attendez, j'arrive. J'ai pas dit la chute encore. Quand je fais une avéra, l'avéra me colle à la peau jusqu'au jour du grand jugement, à moins que j'ai fait teshuva. Quand tu fais teshuva, la teshuva, c'est pas seulement qu'on te dit tu seras pas jugé dessus. Parce que moi, ça m'intéresse pas comme réponse ça. Et je dis oui, mais je suis pas jugé dessus, mais je pue. Ça change quoi? Ça me colle à la peau. On te dit non. Lorsqu'on te dit que tu as fait teshuva et que quelqu'un d'autre croit que c'était cette teshuva, ça veut dire qu'il t'a nettoyé. C'est pas seulement qu'il t'en parle plus. Il dit bon, on n'en parle plus. C'est bon, on n'en parle plus. T'es quitte. Oui, on n'en parle plus, mais je suis sale. Oui. Quand on dit qu'on n'en parle plus, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu te nettoie et que tu sens plus mauvais. Il te nettoie, c'est parti. Ça, c'est un chamim.
Mais ça,
comment tu sais, quand tu fais une vraie teshuva? Mais ça, il faut un chamim.
Quand ils sont bons.
Ça, il faut la miséricorde. C'est-à-dire, ça, c'est pas une teshuva que tu peux obtenir en disant.
Alors, la mitzvah, alors, à quoi elle sert?
La mitzvah?
Qu'est-ce que je fais avec, alors?
Ça n'a rien à voir. C'est une chose différente.
Mais alors, elle vient pas en opposition avec la Avera?
Mais la Avera, hein, je vous donne un exemple. Par exemple, monsieur Benita, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de manger, des choses que vous avez le droit de manger. Par exemple, vous n'avez pas le droit de consommer du poison. Mais vous devez manger. Qu'est-ce que vous aimez manger? Du pain? Imaginez quelqu'un qui va dire, je prends du poison, mais après j'ai pris du pain. On va dire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est très bien que tu as mangé du pain, parce que tu dois manger du pain pour être en bonne santé, mais le poison, il est toujours nocif. C'est pas parce que tu as mangé du pain que ça a annulé l'effet du poison. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est deux choses différentes. Comment tu annules l'effet du poison? T'as fait une avéra, t'as mis du poison en toi, t'as administré du poison. Comment tu fais?
Contre-poison.
Comment tu fais?
On peut pas quand même assimiler donc, toute la avérote.
Toute la avérote. Toute la avérote.
Il n'y a pas cette notion chez nous de balancier.
Ça, le balancier, c'est pour le jugement. Ça veut dire, on me dit.
On va arriver devant. Enfin, je sais pas, j'imagine, l'assemblée d'Anjou, je sais pas. On va arriver avec nos choses positives qu'on a faites dans la vie, on va arriver avec nos choses négatives.
Ça, c'est pour le jugement. Mais moi, c'est pas le jugement qui m'intéresse.
Si je vais arriver avec tout ce que j'ai fait de négatif, je vais être jugé.
Reprenons l'exemple des odeurs. Il y a les bonnes odeurs et les mauvaises odeurs.
D'accord.
Imaginons quelqu'un qui s'est parfumé le. Quel est l'inverse de parfumé? Bon. Qui s'est souillé, d'accord? Qui s'est souillé avec des mauvaises odeurs et qui a compensé avec du parfum. Bon. Il arrive en haut, on lui dit alors, écoute, globalement, tu sens, ça va, ça passe. Mais lui, il sait qu'il pue. Il sait qu'il y a un problème. Donc on dit, même si je suis bien jugé, même si on fait rentrer au Gan Eden, mais ça te colle à la peau. Tu dis, mais ils m'ont fait rentrer au Gan Eden, mais je pue en vérité. Donc ça te dérange. C'est pour ça que c'est ça le chidouche de ce chapitre. Le chidouche, l'innovation principale du cours d'aujourd'hui, c'est qu'il explique que la teshuva n'est pas là seulement pour t'ouvrir les portes du Gan Eden, les portes du paradis. C'est beaucoup plus fort que ça. La teshuva est là, venake. C'est quoi venake? Nettoyer. Nikayon.
Nettoyage.
Hein, nettoyage, voilà. On va faire un peu de loupane. Nikayon. D'accord? Lenakot, nettoyer. Hachem Karachum, venake. Il nettoie. C'est pas seulement qu'il te pardonne. Il y a pardonné sans nettoyer. Mais pardonner ici, c'est dans le sens nettoyer. D'ailleurs, vous savez que quelle est l'origine du mot kapara? C'est quoi, quelle est l'origine du mot kapara? C'est quoi kapara? Alors, vous n'allez dire pas. Non. Kapara, alors. C'est quoi l'origine du mot kapara? Nettoyage. Nettoyer, oui. L'origine, l'étymologie du mot kapara, les rapères en hébreu, c'est nettoyer. Nettoyer. C'est dans la Bible, c'est ce que ça veut dire. Ce que je veux dire par là, hein, c'est que quand tu fais teshuva, la teshuva n'est pas là seulement pour t'ouvrir les portes au Gan Eden, pour répondre à la question. La teshuva est là aussi pour te permettre de te nettoyer. Mais ça, c'est une condition.
Mais alors,
que tu réalises que tu as fauté. Tu ne peux pas faire teshuva tant que tu n'as pas réalisé que tu as fauté.
Exactement.
Des fois, la vérité, je parle honnêtement, des fois, il faut des années pour réaliser une faute. Des fois, il y a des choses que tu fais. Dans ta tête, c'est plus un problème. Tu réalises pas qu'il y a un problème. Tu peux rester comme ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quand un jour tu réalises, tu dis, là j'ai un problème. Quand tu as réalisé que tu as un problème, c'est déjà la moitié de la guérison.
Ah oui.
Parce que là, tu comprends que tu as un problème, tu lèves les yeux vers Hachem, tu dis, je suis perdu. Elle dit, maintenant je vais t'aider. Maintenant que tu as compris que tu es perdu, je vais t'aider. Tu commences celui qui est là tout le temps, il est perdu, mais il veut pas accepter qu'il est perdu. Donc le GPS, il peut lui donner toutes les directions. Le GPS, c'est si possible, faites demi-tour. Si possible, non, mais laisse tomber, il a rien compris, il connaît pas la route, il connaît pas la route. À un moment, tu comprends, le gars, il écoute pas le GPS, et il avance. À un moment, il comprend qu'il est perdu. Et il dit, bon, maintenant, je vais écouter le GPS.
Oui.
Bon, je peux dire, maintenant, on va te ramener. Mais si tu n'écoutes pas le GPS, il arrête de parler, moi, il dit, bon, écoute, c'est bon. Tu comprends le problème? C'est-à-dire qu'il a beau te donner des instructions. Si tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, tu réalises pas que t'as un problème. Tu crois que tu n'y a pas de problème. Eh ben, on peut rien faire pour toi. Faut que tu réalises un problème. Là, tu réalises un problème. Là, on avance.
Mais comment un homme, s'il n'a pas les outils de compréhension.
Non, les outils, c'est autre chose. Déjà, comprends qu'il y a un problème.
Comment?
Je te donne un exemple. C'est comme dans le monde de l'entreprise.
Oui.
D'accord? Des fois, un patron, il sent que ça tombe pas comme il faut. Il y a un problème. La boîte ne tombe pas comme il faut. C'est pas qu'on gagne pas des sous. On gagne des sous, mais c'est pas comme il faut. C'est pas normal. Maintenant, tu peux toujours comment ils appellent ça, s'auto... pas auto-convaincre, auto-suggérer. Tu peux toujours t'auto-suggérer que tout va bien. Et bébé, tu veux dire, regarde, on fait du chiffre, on gagne. C'est vrai, on gagne. Tu peux mettre de côté le sentiment qui te dit, il y a un bug, c'est ton baron. Maintenant, si après un jour.
C'est ce qu'ils font pour ne pas démoraliser.
Exactement. Ils disent, tout va bien.
Tout va bien.
L'entreprise se porte bien. Il n'y a pas de problème. D'accord? Et là, hop, ça monte, c'est ce que ça figure. Alors après, non, justement. Ou bien, tu fais appel à une entreprise.
Voilà.
Tu dis, je veux un audit.
Nettoyer.
Maintenant, quel est le rôle de l'audit?
C'est de confirmer que.
Le rôle de l'audit.
C'est de voir là où il y a l'erreur.
Voilà. Maintenant, il y a des gens, tu comprends, ils demandent, ils commandent un audit, et quand l'audit, il donne des résultats qui ne sont pas forcément positifs, ils disent, non, mais ils sont trompés. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que tu ne payes pas l'audit pour qu'ils te disent ce que tu as envie d'entendre.
Non.
Tu payes l'audit pour qu'ils te disent ce que tu n'as pas envie d'entendre.
Ça dépend pour qui il est commandé l'audit. S'il est pour donner le sentiment aux salariés, ils vont toujours te tourner les questions.
Ouais, c'est ça.
Comme il faut pour que.
Normalement, l'audit, il est payé par les actionnaires.
Non, mais.
Mais les actionnaires, ils n'aiment pas la recherche et le développement, ils veulent du cash.
C'est des bandits.
Les actionnaires, ils veulent du cash. Nous, on veut du cash. On veut un retour de suite. C'est un problème. Mais revenons à notre sujet, pour répondre à la question. Dans le monde des affaires, c'est comme ça aussi. Ça veut dire qu'à un moment, faire un bilan. Et quand tu réalises qu'il y a un problème, c'est là qu'on peut commencer à le régler. Mais tant que tu ne réalises pas qu'il y a un problème, on ne peut pas le régler. On ne peut pas régler un problème qui n'existe pas. On n'a jamais réglé un problème qui n'existe pas.
Plein de cas, par exemple. J'ai eu des dizaines de clients, j'avais beaucoup de juifs. J'avais de tout comme juif. Hein,
dans quel domaine?
Dans le vêtement.
Oui.
Mais j'avais de tout. J'avais des gens pratiquants, des gens religieux, des gens traditionnalistes, des gens libéraux. Mais les gens, honnêtement, les libéraux, enfin ceux qui sont libéraux ou qui ne sont pas pratiquants du tout, je peux vous garantir qu'ils ne se posent pas de questions et qui vivent très bien.
Qu'est-ce que vous en savez, les questions qui se posent à l'intérieur?
Parce que moi, j'étais. Enfin, dans le textile, c'est une relation très, très, très. On est vendeur et en même temps médecin de famille. Non, mais c'est vrai, on connaît leur vie, ils connaissent la nôtre, on échange énormément. Ils achètent leur maison, ils partent en vacances, leurs enfants font des études, ils se marient avec une Goya, ils sont contents, ah, ça fait chier, j'aurais bien aimé qu'ils se marient avec une juive, mais bon, il est heureux, et ils vivent très bien, et ils vont dans ça.
Donc, ils ne réalisent pas qu'il y a un problème. Donc, ils ne peuvent pas faire chouba.
Non, mais c'est pour ça que je vous dis, pour tout à l'heure, je vous parlais d'outils. Ces gens-là, ils n'ont pas d'outils, et ils ont une trajectoire, et ils la commenceront, ils la termineront.
C'était les cours qu'on faisait juste avant.
Ah oui, c'est les outils, c'est la Torah. C'est-à-dire celui qui a, alors à moins qu'il ait de la chance, qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui pense à lui, un parent, etc., qui pense à lui et qui lui envoie des petits rêves de temps en temps pour le booster, ou qu'il lui envoie des gens sur sa route pour essayer de le réveiller. Mais c'est vrai que sinon, il peut rester dans son erreur. Hein.
La seule truc qui va, c'est quand les fêtes de Rosh Hashanah, les fêtes de Kippour. Tu sais pas où je peux acheter ça, tu connais pas un rabbin parce que j'ai un tel qui a un.
Tu as raison. C'est-à-dire qu'il ne réalise pas qu'il y a un problème.
Non, il n'y a pas de problème.
Tant que tu ne réalises pas qu'il y a un problème, tu ne peux pas le régler. On n'a jamais réglé un problème tant qu'on n'a pas admis qu'il y a un problème.
Pour lui, ce n'est pas un problème.
C'est pas un problème.
Très bien. Normalement, lui. Ouais.
Donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème.
Bravo.
Le problème, c'est quand. Vous imaginez si le médecin doit venir pour vous convaincre que vous êtes malade? Normalement, toi, tu sais que t'es malade, tu vas voir le docteur, ou le docteur dit, monsieur, vous n'avez rien rentré chez vous, ou le docteur dit, vous êtes malade, voilà ce que vous allez faire. Maintenant, imagine-toi que toi, tu es malade, et le docteur, il te dit, monsieur, vous êtes malade, tu dis, non, je suis pas malade.
Non, mais c'est comme si.
Tu fais quoi avec lui?
C'est comme si un malade, on le bourrait de morphine, oui. Et on lui dit, est-ce que t'as mal?
Non, j'ai pas mal.
Très bien.
J'ai
plein de morphine.
Donc c'est un problème.
C'est exactement la même chose que ce que il décrit. Il dit des personnes qui sont encombrées par des nuages, qui ne voient pas la présence d'Akadosh Baruch Hu, et qui sont dans leur vie.
C'est un problème. C'est un problème.
Tu as des malades qui sont l'ordonnance eux-mêmes en allant chez le médecin. Ils arrivent avec leur dose à la main. Le médecin, il dit au docteur, j'ai ça.
Voilà. Bon,
il lui dit au docteur,
t'es d'accord. Les plus torturés ou qui se posent beaucoup de questions.
Convaincu.
Mais tu sais, la Gemara dit que même les Rechaïm, leur vie est pleine de regrets.
Oui, moi j'étais pas dans leur conscience. J'avais tellement de typologie, je pouvais à la limite prendre des gens et les mettre dans des cases.
Est-ce que eux ils te connaissaient?
Très bien.
Non.
Mais comment, attendez.
Est-ce que eux ils te connaissaient comme toi tu te connais?
Bien sûr que non.
Voilà.
Donc c'est pareil.
Qui peut se connaître plus que nous-mêmes, personne.
Voilà, donc c'est pareil. On pense
même
connaître
les. Notre père et notre mère, ils nous connaissent.
Qu'est-ce que t'en sais comment ils se portent? Regarde par exemple, on vit dans un monde du mensonge. On habitue les gens à ça. Prends par exemple le monde des stars, etc. Ces gens qui sont là avec des sourds, tout souris, etc. Pourquoi ils meurent d'overdose à 28 ans? D'où pourquoi ils meurent à 28 ans?
Pas tous.
Mais c'est plus que la moyenne.
C'est pire que la moyenne.
Il y a beaucoup. Là.
C'est plus que la moyenne. Seulement, on leur apprend, ils sont formés pour ça. On leur apprend à cacher ça, à montrer des sourires. Mais c'est faux.
Merci, monsieur.
D'accord.
Mais... Il peut pas être heureux avec Nguyen, c'est pas possible.
Non, mais il est obligé. C'est... Le sourire, ça fait partie de son boulot.
Oui.
Ça fait partie de ses mensonges.
C'est grave. C'est très grave.
Ça fait partie de ses mensonges.
C'est-à-dire que rien n'est vrai, tout est faux. Tout est faux, tout est vanité.
Tous ceux qui connaissent des gens qui sont de mariage, ça fait partie de leur mensonge intérieur.
C'est qu'au-delà du vêtement que tu vends, c'est pas des vêtements que tu vends, ce sont des enveloppes.
Et on peut te dire en apparence.
Eux, je les connais mieux.
Je vous ai donné la semaine dernière l'exemple que donne le rabbi avec le lion qui est en cage.
C'est une enveloppe que tu leur vends à chaque fois.
Un lion qui est en cage, que tu peux lui donner tout. Il est malheureux. Il est malheureux. C'est tout.
Quoi? Je pouvais le mettre dans des cases tellement
que c'était
ce que je voulais. Non, c'est
pas. Sache qu'au fond de lui, ce juif, il est malheureux. Parce que l'autre, la Goya, elle lui fait ressentir qu'il est juif.
La Goya ou des femmes juives qui étaient mariées avec des Goyes.
Bah oui, pareil, c'est la même chose.
Très contente, elle était très heureuse.
Ça ressort, ça ressort.
Bien sûr.
Mais il te le racontera jamais à toi. Ça, il te le racontera pas à toi.
Il n'aura pas non plus les typiques hein qu'il reçoit.
Il ne le racontera pas à sa mère non plus. Il ne le racontera à personne.
Bien sûr. Il fait des Goyes.
Hein?
Non, il fait quoi?
Eh ben voilà. On se marie avec une Goya et on fait des Goyes.
Mais il a raison.
Bah oui, t'as raison.
Il faut voir la.
Bon.
Bon.
Enfin, c'était une aparté.
Revenons à nos moutons.
À nos
juifs. Alors,
à nos petits juifs.
À nos nationaux.
Non, mais c'est-à-dire que la règle que Kadosh Baruch Hu a fait, que plus tu t'éloignes, moins tu vois la lumière, et c'est dur.
Mais c'est la réalité.
C'est dur pour revenir.
Tu mets des nuages.
Pour venir, c'est dur.
Bah oui, c'est la réalité, oui. Tu as raison.
C'est ça qui est dur.
Il envoie tout autant de petits éclairs.
Ouais, des fois, c'est des recommandations.
Non, l'éclair, tu vois, l'éclair, il transperce les nuages. De temps en temps, tu vois. Mais après, il peut pas faire le boulot à ta place.
Plutôt en fond.
Non, je sais bien.
Esclaves,
on peut pas guérir quelqu'un qui n'admet pas qu'il est malade.
C'est quoi? D'accord.
Voilà. C'est s'arrête là. Il n'y a rien à faire.
Donc c'est les Grecs.
Je peux pas faire tchouba à quelqu'un qui comprend pas qu'il a un problème. S'il vient me voir et dit, monsieur le rabbin, j'ai un problème, tu discutes avec lui.
Non, il peut comprendre qu'il a un problème en disant, bon, ça va, je vois que j'ai une tonne de nuages.
Voilà, mais comme il dit, des fois, il y a des gens, rappelez-vous chapitre 6, des fois, il y a des gens qui sont bichonnés par les forces du mal, ça peut durer comme ça 20 ans, 30 ans, et ils se posent pas de questions. Il y a rien qui leur pousse à poser des questions, et c'est un problème.
C'est la critique de la boucle de Kant.
Bon, on va continuer. Alors, vous avez dans les mots, Rabotai 248? 248? Donc voilà, si on devait résumer en un mot ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est la notion que il faut comprendre qu'on fait pitié. Il faut comprendre que, il faut admettre qu'il y a un problème. Quand tu admets qu'il y a un problème, j'ai pas beaucoup d'expérience dans ma vie, mais je peux vous dire que j'ai eu plusieurs fois des situations comme ça, que, pour moi et pour d'autres personnes aussi, que tant que tu as pas admis qu'il y a un problème, le problème il s'est pas réglé. Et dès que tu as compris qu'il y a un problème, Là, le problème, il s'est réglé. Mais d'abord, il faut que tu admettes qu'il y a un problème. Pas par routine, pas pour dire on m'a dit qu'il y a un problème, donc je dis qu'il y a un problème. Ça, c'est pas rien, ça.
Tu dois être convaincu.
D'accord. Je dois être convaincu que j'ai un problème.
C'est toi.
Pas parce que le banquier me l'a dit, pas parce que le directeur me l'a dit, pas parce que les employés m'ont dit, parce que je sais que j'ai un problème. C'est mon problème. Je me l'approprie. Là, tu trouves la solution au problème. Hachem y t'aide.
Et comment vous faites pour. Quand vous savez qu'il y a un problème, vous avez un problème. Allez, il y a un problème. De toute façon, même si. Même si les autres le rappellent. Comment identifier le ou les problèmes? Parce que c'est pas évident, puisque c'est quelque chose dans à l'émis, il n'y a que quelqu'un de l'extérieur qui peut nous le dire.
Ça, effectivement. Ce qu'on a dit, effectivement, il faut demander d'abord à Dieu de nous aider, mais il faut de l'aide extérieure.
D'accord.
Mais savoir qu'on est malade, c'est déjà la moitié de la guérison. Je disais, il y a beaucoup de gens, par exemple, Dieu préserve, qui meurent parce qu'ils ne se soignent pas comme il faut. Ils vont chez le docteur. Ils disent, monsieur, vous avez un problème cardiaque. Et jusqu'à la fin de votre vie, il faudra faire attention, prendre tel cachet. Il prend une fois, deux fois, trois fois, un mois, deux mois, il s'arrête. Il oublie une fois, il oublie trois fois, il arrête. Pourquoi il a arrêté? Dans sa tête, il n'a pas compris. Il n'y a rien à faire, tu peux rien faire avec.
Il a compris, mais il n'a pas
envie. Non, il n'a pas compris. Il n'a pas admis. Il n'a pas réalisé qu'il y a un problème.
Il n'a pas envie
de. Dans sa tête, il a mis ça dans un coin de sa tête. Il a dit, le docteur, il a dit, mon cœur, je me sens bien, tout va bien. Il n'a pas admis. Il n'a pas admis.
Voilà.
Il se dit ça, exactement. C'est la réalité, je me sens très bien.
J'ai pris 4 cachets, ça m'a saoulé.
Ça m'a saoulé, etc. Ça modifie mon tempérament, ça modifie mon rythme, ça modifie, etc. Je m'arrête. Ok? Tu ne l'as pas admis, on peut rien faire pour toi. Quand tu as admis qu'il y a un problème, tu veux le régler, là tu peux le régler. Ok. Alors, dans les mots, Azaï, à ce moment-là, au page 248. Ou Me'achar, Sheroua, Chavra, ou Teta Harem, dès lors qu'un vent de pardon a traversé l'âme et l'a purifié. Azaï tuchal nafsham lashuv adavai ba'ruchu mamash velalot malamal mikoral de kol dvaruchu nifla. Une fois que tu as fait tshuva, tu as réalisé qu'il y a un problème et qu'Hachem t'a nettoyé, il n'y a plus rien qui te limite après, plus rien qui te bride, plus rien qui t'empêche de remonter vers la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'autant avant que tu fasses tshuva, tu avais un nuage devant toi, un cumulus qui te bloquait. Dès que tu as fait tshuva et que le cumulus a disparu, tu peux monter, il n'y a plus rien qui te bloque. Ça veut dire que quand tu fais tshuva, tu deviens aussi propre qu'un bébé. Un bébé, quand il démarre sa vie, il n'y a rien qui l'empêche. Rien qui l'empêche de devenir ce qu'il veut devenir. Quand après il a grandi, il a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il a une histoire, il a un vécu, tu comprends, il ne peut pas tout changer d'un coup.
Mais on a aucun
deux secondes. Mais ce qui va t'apprendre de Morazaket, c'est que lorsque tu fais teshuva, une vraie teshuva, une teshuva dans laquelle tu réalises qu'il y a un problème, et une teshuva dans laquelle tu veux revenir, la teshuva peut tout nettoyer. Et quand j'ai tout nettoyé, c'est-à-dire que tu ressors blanc. On verra après que ça, c'est la teshuva de bas niveau. Et qu'avec la teshuva de haut niveau, non seulement que tu ressors blanc, et tu ressors plus blanc que blanc. C'est qui blanc que blanc?
Ah, Coluche.
Alors, c'est quoi plus belle? Tu ressors.
Dites-moi.
Une fois qu'on a fait.
Tu ressors. Tu transformes les fautes en mitzvot. Mais ça, c'est pas. On parle pas de ça encore.
Comment. Quand on a fait la teshuva, comment on sait que celle-ci, elle a été agréée?
Ah, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question.
Ou qu'elle n'a pas été agréable.
Ou pas. Très bonne question.
Comment rectifier l'histoire?
Très bonne question. Ah, ça, on va voir après. Ça veut dire, quel est l'indicateur? Quel est l'indicateur?
Oui, comment.
En deux mots, la réponse, c'est qu'on le sent. Mais il faut développer comment on le sent.
Là, on est jugé parti en même temps. Bon,
on se sent. Non, vous savez, je vais expliquer. Je vais parler un peu clair. Quand une personne a fait une faute comme ça qui le colle à la peau, il porte un bagage sur lui. C'est lourd. Même s'il n'y pense pas, c'est lourd. Quand vous portez une charge sur votre dos, vous portez 100 kilos sur votre dos, même si vous dites « je n'y pense pas », c'est lourd, ça pèse. Et quand tu arrives à faire une bonne tshuva, tu sens que tu es plus léger.
Oui, mais je ne sais pas si elle a été agréée ou pas.
Si, justement. Si tu te sens plus léger...
Dans ma tête à moi, parce que j'ai dit que...
Non,
voilà.
Non. Ce n'est pas dans ta tête. C'est que tu te sens plus léger parce que tu sens que tu t'es dégagé de quelque chose. Tu t'es débarrassé. C'est pas seulement qu'on ne te punira pas en haut. Tu te sens mieux, tu sens que tu t'es débarrassé. Il y a un fardeau comme ça qui peut être sur toi. Tu dis, il y a un fardeau des choses que tu as peut-être fait, qui est là, qui traîne. Qui peut traîner depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, qui est là, qui traîne sur toi. Et même si tu veux le mettre sous un tapis, mais il ressort tout le temps parce que c'est un fardeau. Et quand tu fais une bonne teshuva, tu regrettes vraiment, tu comprends qu'il y a un problème, et tu dis, Hachem, aide-moi, à un moment, tu sens que tu te sens plus léger. Hachem, il t'a dégagé ce fardeau, il t'a enlevé ce fardeau.
Libéré.
C'est une chose qui arrive à tout le monde, ce que je vous dis. Chaque personne, il a dû vivre ça au moins un Kippour. Après Kippour, tu te sens léger. Tu te sens que Je me sens léger, je me suis dégagé de toutes les lourdeurs, de tous les bagages que je t'ai rapportés.
Tu respires de tout.
Le doigt qui est confessé
complètement.
C'est bien.
Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir parce que.
Tu vas expliquer pourquoi
ça n'a rien à voir. Je comprends ce que tu dis. Ça n'a rien à voir parce que le goy qui fait ça pour aller voir le psy ou pour aller voir le. C'est la même chose. Le curé ou le psy, c'est la même chose en réalité. D'accord. Il n'a pas décharge son sac devant Dieu. Il décharge son sac devant un être humain. C'est-à-dire qu'en vérité, si tu veux, il a un fardeau, il prend la valise et il dit je prends la valise, je vais l'enlever et je la pose là. Le problème, c'est que tu peux pas l'enlever, la valise, parce qu'elle est là. C'est comme si t'as un nuage. L'exemple du nuage est un excellent exemple. Quand t'as un nuage qui est là, t'as beau dire, il n'y a plus de nuage. Le nuage est toujours là. Tu comprends? Tu peux verser de l'eau sur le nuage, tu peux dire, t'es plus un nuage. C'est toujours un nuage. Tu connais la blague avec trois fois? Hein, c'est moi d'attendre qu'on fasse rejouir. Une fois, il y a une personne qui veut se convertir. Alors, il va chez le curé. Le curé lui dit, écoutez, bon, on vous accepte, mais à une condition. La Dafina, Shabbat, c'est fini. C'est fini.
Normal.
Ça y est, c'est fini, vous convertissez, c'est fini. Je dis, bien sûr, pas de problème, je suis le curé, mais pas de problème, etc.
S'il y a que ça,
etc. Maintenant, le curé, il sait que c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne autour de la maison de ce monsieur, vendredi, après-midi, et il sent une odeur de Dafina. Donc, il comprend qu'il y a un problème. Mais il dit, il faut que je l'attrape en flagrant délit. Pour l'instant, il a que cuisiné. Peut-être qu'il a cuisiné pour quelqu'un d'autre, etc. Bon. Donc, il attend. Il attend, Shabbat midi, il voit, il est là en train de s'éclater avec la Dafina. Alors, tout de suite, il rentre, il attrape la Dafina, il lui dit, alors, comment tu prends la Dafina? Il dit, monsieur le curé, c'est pas compliqué. En fait, j'ai pris la Dafina, j'ai versé de l'eau trois fois dessus, et j'ai dit, c'est du poisson. Ça veut dire ce que je veux dire, ça veut dire que te dégager devant quelqu'un, ça sert à rien, c'est walou, ça. C'est rien du tout. Le fardeau est toujours là. Là, on parle de se dégager devant un cadre de jour, parce que le cadre de jour, tu nettoies. Et ça, c'est quelque chose qui est authentique, qui reste. On a des gens qui font tchouva comme ça, ils se débarrassent d'un problème, ils n'ont plus.
Concrètement, à l'époque, il y avait la nuée ardente au-dessus, il y avait la shrina qui était présente. Quand un juif se déplace au Beth Amikdash, de toute façon, il suffisait qu'il lève les yeux, il comprend qu'il rentrait dans...
Ouais.
Nous, aujourd'hui... Aujourd'hui, et c'est pour ça que tous les peuples, quand ils allaient, tous les peuples qui ont créé déistes ou monothéistes, tous les peuples ont besoin de concret. C'est pour ça qu'ils ont créé des idoles, parce qu'ils ont besoin de concrétiser, matérialiser l'esprit. D'accord?
Okay, alors.
Quand un homme va voir un autre homme, un psy ou peu importe, il le palpe, il le sent, il le touche, c'est rassurant et c'est concret. Et quand il parle, il va vraiment, c'est comme si il prenait un fardeau, il tient, t'attrape, hop, et il lui donne. L'autre il se sent plus léger, l'autre il prend tout dans la... D'ailleurs, les psys, à la fin d'une journée, bien sûr qu'ils sont vannés. Non, mais ils deviennent.
Bien sûr.
Il y en a qui se lavent les mains exprès, qui se vident. C'est impressionnant, j'ai lu des trucs dessus. Les psys, ils s'en prennent plein de la figure et ils sont très très mal. Et quand. Non, nous, en tant que juif de 2019, moi, si je fais teshuva, si au fond de moi.
Donc là, le psy, c'est Dieu.
Souvent, ils vont. D'accord, mais. Voilà.
Le psy, il a une technique. Ce qui est de prendre un malade, il fout sur un autre malade.
C'est ce que je te dis. Je comprends très bien la question.
Il prend des charges.
Mais là, toi, la question que vous posez est déjà sur l'après. Ça veut dire après, comment je fais pour continuer, pour me reconstruire. Je suis pas à ça.
Non,
justement. Moi, je suis pas à ça. Je suis à la base, la teshuva.
Là, je suis à la base. C'est-à-dire la personne qui a la prise de conscience.
Eh ben, c'est ça, tout à l'heure.
Mais parler. Parler ou raisonner ou penser très fortement à Dieu, exprimer son ressenti à quelque chose qui n'est pas palpable.
Votre référentiel devrait être comme un fils avec son père. Le fils avec le père répond à toutes les questions.
Ouais.
Il y a des choses qui se disent, des choses qui ne se disent pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sentent. C'est-à-dire qu'à un moment, le fils il peut expliquer ce qu'il veut, mais ça ne marche pas, ça ne passe pas. Mais à un moment, il y a des choses qui passent par le ressenti, par le sentiment. C'est-à-dire qu'il donne le sentiment que papa, je suis perdu. J'ai gaffé, ce que tu veux, mais je suis perdu.
C'est bon.
Je suis perdu. Et là, le père, il peut pas ne pas avoir pitié de son fils. C'est la même chose avec le cadre de Jouarou. Est-ce que ça veut dire qu'il a accepté ce qu'il a fait? Il n'a pas accepté. Il n'accepte pas ce qu'il a fait.
On ne sait pas.
Il n'a pas accepté. Moi, je ne sais pas. On ne sait pas. Je sais. Il n'a pas accepté. Mais il a réussi à toucher une fibre qui dépasse ça. C'est ce que je vais expliquer. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et si tu veux, la semaine prochaine, très joli chapitre si tu veux la semaine prochaine. On va commencer à parler de la teshuva de haut niveau. Vous allez voir que c'est encore, il y a encore un autre niveau. Mais déjà, on a compris une chose, c'est que admettre qu'il y a un problème, c'est déjà la moitié de la solution.
Mais à partir du moment où je vais vous voir, oui, c'est que j'admets qu'il y a un problème.
Non, je suis pas d'accord. Quand vous allez voir un docteur, parfois,
c'est que je suis malade.
C'est parce que vous savez que vous avez un problème, mais vous n'avez pas envie de l'admettre. Et vous vous dites, je vais écouter ce que le docteur va me dire, et on verra si ça m'intéresse ou pas. Et peut-être que ce que le docteur va dire, ça va dans mon sens, donc ça m'intéresse. Si ça va dans mon sens, ça m'intéresse pas.
C'est deux secondes.
C'est-à-dire que moi, j'ai déjà mon idée. Volontairement, je caricature. Ça veut dire que, en vérité, dans ma tête, j'ai déjà mon idée de ce que je pense, et pour moi, c'est pas grave. Non, je dis comme le docteur l'a dit qu'il veut me voir, donc je vais aller le voir, je vais écouter ce qu'il a à me dire. S'il va dans ma direction, tant mieux. Mais pas dans ma direction, c'est un remarque. Vous dites, ça marche pas comme ça. Quand tu dois aller l'écouter, tu dois écouter le docteur en disant, moi, j'ai aucune idée. Je dois écouter ce que lui, il a à me dire. Et ce qu'il me dit, c'est la vérité. Et s'il me dit qu'il y a un problème, j'ai un problème. Quand tu réalises, quand ça rentre dans ta tête, j'ai un problème, t'as tout réglé. Parce que si t'admets que t'as un problème, tu trouveras la solution. Tant que t'as pas admis que t'as un problème, tu trouveras pas la solution. Mais maintenant, même si, concrètement, tu vas voir le docteur, parce que tu sais qu'il y a un problème, mais tu veux pas admettre qu'il y a un problème, le docteur, tu l'écoutes pas. C'est une routine. Je sais qu'il faut aller voir le docteur, donc je vais voir le docteur. Ah, oh, il me dit ça, vraiment, il a parlé. Et alors?
Finalement, tout ça, c'est à l'intérieur.
Tout se passe à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur.
Quand tu passes à l'intérieur, très souvent, c'est quand tu as une compagnie d'assurance pour t'assurer.
C'est pas mal.
C'est désorganisé complètement intérieurement. C'est pas possible.
Il faut une chose. C'est qu'il réalise qu'il est bloqué. Dès qu'il a réalisé, il lâche Mutel.
Donc, il est là pour te rassurer.
Tant qu'il est dans la forêt, il tourne en rond et qu'il se dit, ça, c'est la route. C'est la route. Je suis dans la bonne route. Pas rien pour toi. À un moment, il se dit, mais attends, je suis perdu. Là, on peut t'aider.
Pas la bonne route. Pas la bonne route. Voilà. Voilà.